Radio Kapi.
Oh, Kapi. Les informations, patience, Ngalula Mbombo. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, est arrivé hier jeudi après-midi à Bunia, accompagné de Bintou Keïta, chef de la MONUSCO. Avant d'arriver à Ituri, Jean-Pierre Lacroix était au Nord Kivu depuis mercredi. Le gouvernement souminois a totalisé 100 jours hier jeudi 19 septembre depuis son investiture. Les avis des Congolais sont partagés à propos de son bilan. Vous allez suivre les avis des uns et des autres dans ce journal. En l'espace d'une semaine, plus d'une trentaine de personnes ont perdu la vie dans des violences perpétrées par des éléments des Zaïre et Codeco en territoire de Djougou. Comment stopper les cycles des violences en Ituri? Dieudonné Lossa, coordonnateur de la société civile en Ituri, est l'invité de ce journal. Bonjour. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, est arrivé hier jeudi après-midi à Bunia, dans la province de l'Ituri, accompagné de Bintou Keïta, chef de la MONUSCO. Cette visite intervient dans un contexte de grave détérioration de la situation sécuritaire dans la région. Avant d'arriver à Ituri, Jean-Pierre Lacroix était au Nord Kivu depuis mercredi. Il a visité différents contingents de la force onusienne basée à Mubambiro, près de Sake, à 27 km à l'ouest de Goma. Sur place, il a visité diverses installations de la force et la salle de chirurgie tenue par les contingents malawites. Cette salle, installée depuis 2 mois environ, prend en charge les blessés des guerres civiles, FRDC et combattants Wazalendo, cela avant leur évacuation vers Goma. Jean-Pierre Lacroix a inscrit cette visite de terrain dans le cadre du réconfort afin d'encourager les forces à assurer la protection des civils. On l'écoute au micro de Denise Louquet.
Les enjeux de cette visite, c'est de rendre visite à nos collègues qui sont sur le terrain, d'échanger avec eux sur à la fois l'état de leur préparation, leurs défis, et de les encourager à continuer dans leur mission, qui est une mission de protection des civils, qui est une mission au service de la paix, une mission au service de toute cette région, en l'occurrence de Sake-Goma, que nous entendons protéger au mieux de nos ressources, au mieux de nos moyens, évidemment en étroite liaison avec les forces congolaises et aussi la force de la SADC, SAMI-RDC. Donc, je suis reconnaissant à la force de la MONUSCO pour le travail qui est fait dans des conditions qui sont difficiles.
La présence de cette force, ça peut rassurer la population de Goma et de Sake, entourée par les rebelles du M23?
C'est l'objectif, bien sûr, parce que nous avons une mission qui est de protéger les populations. Il y a un afflux de personnes déplacées dans cette zone. Je crois qu'il faut faire le maximum pour y parvenir, malgré les difficultés. La population a des partenaires, la MONUSCO, qui font de leur mieux pour atténuer leurs souffrances, les protéger et aussi tout faire pour ramener la paix.
Nord Kivu, la société civile provinciale ne demande aux Nations Unies que la paix et rien que la paix. C'est le grand message adressé à Jean-Pierre Lacroix par ses représentants. C'était au cours d'une rencontre tenue tard dans la soirée au quartier général de la MONUSCO à Goma. Plusieurs questions préoccupantes ont été mises sur la table au cours de cet échange, notamment la crise sécuritaire elle-même, les processus diplomatiques de Luanda, mais aussi la transition de la MONUSCO. La délégation de la société civile n'a pas manqué de formuler ses souhaits sous forme de recommandations. Elle demande aux Nations Unies plus d'implication pour le retour de la paix au Nord Kivu. Jean-Claude Bambazé, président de la société civile de Rutshuru, a fait partie de cette délégation. Il est au micro de Sifa Maguru.
Il faut dire que la société civile a demandé rien que la paix. On a demandé à ce que les Nations Unies s'impliquent activement, non seulement pour changer le mandat de la MONUSCO, parce que pour le moment, on a compris qu'on n'a pas besoin d'un mandat de maintien de la paix qui n'existait pas, mais on a sollicité à ce que plutôt, il y ait un mandat d'imposition de la paix. Parce que ce qui nous reste pour le moment, ce n'est qu'imposer la paix pour qu'à la fin, maintenant, on puisse la maintenir. Mais il faut dire également que la société civile a demandé aussi qu'il y ait quand même des sanctions contre les pays agresseurs, notamment le Rwanda, partant de tout ce qu'il y a eu comme rapport impliquant, incriminant le Rwanda. Donc, le silence des Nations Unies, ça fait quand même craindre aux gens. On a sollicité à ce que le Conseil de sécurité vraiment se saisisse de tout ce dossier pour que la paix revienne dans nos entités, afin que tout ce que nous subissons comme affres de la guerre, tout ce que nous subissons comme violation des droits humains s'arrête et que les déplacés rentrent dans leur milieu d'origine.
Au Nord Kivu toujours, une délégation des chefs coutumiers du secteur des Bapéré dans les territoires des Lubero a échangé ce jeudi avec le chef du sous-bureau de la MONUSCO Beni. Les échanges ont tourné autour de la situation sécuritaire dégradante dans cette entité coutumière en proie à des attaques des rebelles EDF. Lors de cette rencontre qui a connu la participation de représentants des agences du système des Nations Unies, la notabilité du secteur des Bapéré a plaidé pour l'implication et le soutien de la MONUSCO dans la restauration de la paix dans cette partie du territoire de Lubero, mais également à l'assistance à des milliers de familles déplacées. Les Mwami et Jeune Viringa Mayani du groupement des Babika revient sur l'objet de leur mission au micro de Grévis Salomon.
Nous sommes venus présenter aux humanitaires confondus l'état des lieux actuels qui prévaut dans nos entités. Et pour que la MONUSCO puisse porter au haut les cris de détresse de la population du secteur de Bapéré, depuis un certain temps, les opérations de traque des EDF ne font pas vraiment la préoccupation de beaucoup de personnes. Pourtant, la population vit une situation vraiment très dégradante. Alors nous voulons que la MONUSCO, avec le gouvernement, puisse prendre un programme spécifique pour la situation qui prévaut actuellement dans le secteur de Bapéré. Pour le déploiement de la MONUSCO dans la zone, à l'appui et l'assistance des populations vulnérables. On n'a jamais compris pourquoi ça a toujours monté d'un cran pour qu'il y ait des choses qui peuvent aller à l'encontre des actions de la MONUSCO. Il faudrait que la population comprenne les missions effectives des organisations des Nations Unies.
Le chef local de la MONUSCO dit prendre acte et promet de remonter la demande à sa hiérarchie. Les avis des Congolais sont partagés sur les bilans de 100 jours du gouvernement sous-minois totalisé hier jeudi 28 septembre 2024. Radio Kapi l'a constaté ce jeudi après avoir circulé son micro à travers les pays. Le Zin estime que c'est trop tôt pour juger la première ministre. Il faut lui donner encore du temps. Tandis que d'autres disent que la chef du gouvernement n'a rien fait jusque-là et estime qu'elle ne saura pas relever son défi. Suivez quelques-uns d'entre eux au micro de Bledge, Shindani Kambala et Believe Fatah.
Bon, avec ses ambitions qu'elle nous a émises, hein, moi j'ai dit qu'il faut lui donner du temps. Le 100 jours, c'est comme mon doigt. Il faut lui donner du temps. Allons tout doucement. Ayons confiance à la maman. Elle va faire son travail.
Le bilan de Mme Souminoua, donc nous pouvons dire seulement qu'il y a des signes positifs qui donnent vraiment de l'espoir. Dès l'entrée en fonction, nous l'avons vu à l'œuvre jusqu'à l'est, là où il y a la guerre, pour assister les blessés de guerre et autres. C'est déjà des signes vraiment d'espoir.
Si je dois me fier au cours de change du dollar, je me dirais qu'il y a une certaine stabilité qui s'est présentée. Pour ce qui est du reste du gouvernement, c'est du surplace. C'est du surplace.
Bon, pour moi, je vis aucune chose, rien du tout. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout.
En tout cas, pour moi, il n'y a rien. Le bilan est largement négatif. Donc, elle n'a rien fait. Elle n'a qu'à démissionner. Parce qu'on ne voit rien. On ne voit rien. On espérait quelque chose avec une dame de fer même. On ne voit rien.
Au moins 400 leaders religieux ont bouclé ce jeudi à Kinshasa la formation de 3 jours sur l'éthique et la déontologie épiscopale. À l'initiative de l'Ordre supérieur épiscopal du Congo, cette première session a été placée sous le thème « Les relations entre l'État et les confessions religieuses ». À travers cette formation, le président de cette structure, archevêque Léonard Matéboué, a dit vouloir remettre de l'ordre dans les secteurs religieux congolais. Il a également encouragé les serviteurs de Dieu à apporter la paix, l'unité et la cohésion nationale dans leurs différentes communications. Archevêque Léonard Matéboué, au micro de Blaise Ndongala Mayanda.
Le secteur religieux comprend que les choses doivent changer. Pourquoi? Le chef de l'État, il avait dit que j'ai dédié ce pays entre les mains de Dieu. Cette déclaration était prophétique. Cette déclaration, à son présent, donc on devait comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire. Jusqu'à présent, qu'est-ce que l'Église a fait? Il faut qu'un homme de Dieu soit un homme qui est bien correct dans ses dires. Raison pour laquelle, avec ces sacs, nous avons dit que nous allons inviter toutes les chaînes chrétiennes pour donner quand même de l'ordre. Il ne faudra pas que les hommes de Dieu disent n'importe quoi sur des chaînes. Alors, nous avons besoin de la paix. Nous devons être les hommes hommes de Dieu responsables. Nous devons comprendre lorsque qu'elle est là pour remettre les choses comme le président général vient de le dire, on doit recommencer et puis éviter les erreurs passées. Nous pensons que cette fois-ci, les choses doivent bien marcher. Tout le monde a été content de la formation qui a été donnée. Il y a eu une participation, l'engouement était au point. Tout s'est passé très très bien. Nous pensons qu'après cette formation, il y aura la descente. En plus de cela, nous devons organiser une assemblée générale.
Élection à l'Union nationale de la presse du Congo, Kamandawa Kamanda Muzembe a été élu comme président avec 87 voix sur 153 votants au détriment de Modeste Chabani. Le secrétariat général sera dirigé par Jess Bizegbia, élu avec 68 voix. Santé avec l'épidémie de Mpox. Au moins 145 cas sont signalés dans la province du Kwango, dont 2 décès, soit un taux de létalité de 1,55%. Parmi ces cas, au moins 10 sont confirmés par l'INRB, précise le ministre provincial de la Santé qui indique que 10 sur les 14 zones de santé que compte cette province sont touchées par cette maladie. Docteur Apollinaire Yumba évoque plusieurs difficultés pour lutter contre cette maladie, dont les manques des intrants de prise en charge et des prélèvements des échantillons. Il lance un appel au gouvernement central pour venir en aide à cette province. Le ministre provincial de Santé du Kwango, Dr Apollinaire Yumba, est joint par Irène Mbomaluzolo.
Voici la situation Mpox au Kwango. Nous avons un cumul de 145 cas, dont 10 confirmés par l'INRB. Parmi les 10 cas confirmés, 6 cas sont de la zone de santé de Kenge et 4 cas sont de Kasongo-Lunda. Nous avons 2 décès et la province a 14 zones de santé, mais l'épidémie touche déjà à ce jour 10 zones de santé et le taux de létalité est de 1,55%. La province a une difficulté d'intrants et de médicaments de prise en charge, mais surtout, nous manquons les kits de prélèvement. Et pour nous, c'est un cri d'alarme au gouvernement central pour venir en aide à la province du Kwango, notamment en kit de prélèvement des échantillons. Et nous demandons aussi que la province du Kwango soit retenue parmi les provinces prioritaires en ce qui concerne la vaccination contre le Mpox et autres activités de lutte.
Au Sud Kivu, une unité de production du bioéthanol a été inaugurée ce mercredi 18 septembre au sein de la fondation Panzi dans la ville de Bukavu. Cette usine servira à produire l'alcool éthylique qui sera utilisé à des fins médicales, notamment la fabrication du gel hydroalcoolique. Cela à base de la canne à sucre comme matière première. C'est dans le cadre du projet ONUDI, Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, autonomisation des femmes vulnérables pour la stabilisation sociale dans l'est de la RDC, financée par les gouvernements du Japon. Reportage Rachel Kiesembangu.
Ce projet fournit aux bénéficiaires des opportunités de génération de revenus liées à la production du bioéthanol pour désinfectants à partir de produits agricoles tels que la canne à sucre qui sont disponibles localement. Quel objectif vise ce projet? Bruce Kialangalilwa, biotechnologiste à ONUDI.
Mais nous visons deux choses. Nous visons premièrement une opportunité de business ou d'affaires pour les femmes vulnérables identifiées et affectées à ce projet. Deux, contribuer à la mise sur le marché local du produit éthanol que notre province importe en grande quantité de l'extérieur. Cette unité de production aura une capacité de 50 000 litres annuellement et nous pensons que ce sera assez suffisant pour couvrir tant soit peu 10-15% des besoins locaux.
C'est une opportunité d'affaires pour 300 femmes vulnérables qui fourniront la matière première devant être utilisée dans cette usine. Barishin Dijan Dark, présidente du regroupement d'intérêt économique Wamama Tujitegemei.
Et c'est le regroupement qui fournit les matières premières pour fabriquer les bioéthanol.
En quoi cette usine va aider ces femmes qui font partie de votre regroupement?
Ça va aider ces femmes à être indépendantes.
Bukavu, Rachel Kessé, Radio Okapi.
À Kinshasa, l'avenue de la Libération X-24, dans son tronçon compris entre Petit Pont dans la commune de Bandalungwa jusque vers la prison centrale de Makala, est dans un état de délabrement très avancé. Les travaux de réhabilitation lancés il y a de cela 3 semaines sont à l'arrêt. Conséquence, des embouteillages monstres s'observent chaque jour. Ceux des transporteurs qui empruntent cette route, malgré son état désastreux, sont obligés de majorer les prix de la course. Cette voie, il faut le rappeler, relie plusieurs communes de Kinshasa, notamment Bandalungwa, Bumbu, Selembao et Ngiringiri. La population lance un cri d'alarme envers le gouvernement pour la reprise des travaux de réhabilitation. Ce reportage est réalisé par Emmanuela Baleka, Jean-Marie Kanaimba et John Chihuahua. Suivez.
Des moellons abandonnés sur la chaussée, des caniveaux remplis de bouteilles en plastique, des nids de poules et autres flaques d'eau. C'est dans cet état que se trouve l'avenue de Libération X-24, dans son tronçon compris entre Petit Pont, dans la commune de Bandalungwa, jusque vers la prison centrale de Makala. Au niveau du Petit Pont à Bandal, le passage des véhicules et motos s'est fait à tour de rôle, causant des embouteillages. Le prix de la course, quant à lui, a été majoré. Ses chauffeurs expliquent.
Cet embouteillage fait souffrir les petits peuples. Nous majorons le prix car nous prenons beaucoup de temps dans l'embouteillage. Le prix de la course est 1 000 francs, mais nous l'augmentons à 2 000 francs.
Peinée, la population plaide pour la réhabilitation rapide de ces tronçons. Ndombasi Junior.
On a juste jeté des pierres et puis c'est fini, on n'a rien fait. Donc cette route nous dérange énormément. Il y a eu la saison, c'est ce qui s'achève. Comme on ne réhabilite pas ça vraiment, pendant la saison des pluies, on va encore souffrir davantage. Nous demandons aux autorités de prendre les responsabilités, de s'atteler pour réhabiliter cette route parce que c'est une route d'une grande importance.
D'après les témoignages recueillis, pour s'effrayer le chemin pendant l'acheminement des détenus à la prison centrale de Makala, le policier qui emprunte cette voie tabasse les chauffeurs et le récévère.
Actualité internationale.
Le nord-est du Nigeria, toujours en proie à des inondations meurtrières. Actuellement, 11 États sont en alerte et selon l'ONU, plus de 400 000 personnes sont touchées dans le nord-est du pays. Dans l'État de Borno, les pluies ont forcé de nombreuses personnes à quitter leur maison pour se réfugier dans des camps de fortune. Environ 15% des Maïdougouri, la capitale de l'État de Borno, est sous les eaux.
L'invité.
Comment faire pour stopper les cycles des violences en Ituri? En l'espace d'une semaine, plus d'une trentaine de personnes ont perdu la vie dans des violences perpétrées par des éléments des Zaïre et Codeco en territoire de Djougou. Des cas de dérapage à caractère identitaire avec mort d'hommes sont enregistrés au quotidien selon la société civile. Cette situation pousse des milliers de déplacés installés sur des sites à trouver refuge ailleurs, notamment près des bases militaires de la MONUSCO. Dieudonné Lossa, le coordonnateur de la société civile, en Ituri s'entretient avec Jean-Claude Lokidile.
Dieudonné Lossa, bonjour.
Bonjour.
Quelle est l'actu que vous faites de la situation sécuritaire qui évolue ces derniers jours, depuis le week-end dernier, principalement dans le territoire de Djougou?
La situation sécuritaire se détériore davantage. Vous allez vous rendre compte que même le jour où on a tué les gens à Jina, il y a un homme qui a été tué en Djougou, même au chef-lieu du territoire. Il a été égorgé. Et à plus de cela, hier dans la soirée, il y a un jeune garçon qui venait de... qui passait par Jina, qui était de Sijelendou, qui a été descendu du véhicule et tabassé sérieusement. C'est grâce à l'intervention des militaires de FADC et de Kotenja de la MONUSCO qu'il a été sauvé. Il est retourné vers Pimbo où il est en train de suivre des soins. Vous allez également vous rendre compte qu'à toujours hier, je crois avant-hier, il y a un autre opérateur économique, Emma, de Largu, qui était au marché à Masumbuko. Masumbuko, c'est le chef-lieu de Walendu Tatsi, là où il était au marché. Tous ses billets ont été pillés et lui-même a eu la vie sauve grâce à l'intervention des notables. Au moment où nous vous parlons, le site de Lala est sous attaque de Codeco. Maintenant là, on signale qu'il y aurait même cas de mort et des blessés.
Sur le site.
autour des sites. Mais l'attaque vise les sites et la population qui sont dans cette zone-là.
C'est quoi la crainte telle que vous décrivez la situation? Qu'est-ce qu'il faut faire en urgence pour stopper cette situation?
Sur le plan humanitaire, vous savez déjà, il y a des déplacés qui ont fait plus de 5 ans dans les sites des déplacés, qui ne recevaient plus des aides humanitaires. Et aujourd'hui, ils sont de nouveau déplacés de là où ils étaient. Là où ils vont aller, ils seraient dans des situations plus compliquées qu'hier. Parce que bien que dans les sites, ils avaient peut-être déjà des maîtrises, des petites choses là où ils étaient. Au moment où ils se déplacent de nouveau, ils n'ont pas où dormir, ils ne savent pas comment trouver à manger. Donc tout recommence à zéro.
Ma question, qu'est-ce qu'il faut faire en urgence pour stopper ces...
C'est que les autorités doivent tout faire pour arrêter les massacres. On doit arrêter les mouvements continuels des groupes armés qui tuent. Ce n'est pas normal dans un état comme RDC que les miliciens se promènent avec les armes, ils continuent à tuer la population et rien n'est fait. Je crois que ça, c'est la première des choses. Mais aussi par rapport au comportement qu'affichent certains membres des communautés, certains jeunes, il faut une sensibilisation, une forte sensibilisation qui doit aussi être conduite par toutes les forces vives et les autorités à tous les niveaux.
Et à votre niveau aussi, qu'est-ce qui est fait? Parce que vous parlez de sensibilisation, je pense que les efforts doivent être conjugués, non pas seulement l'armée. Côté vous, civil, côté autorité coutumière, côté église, qu'est-ce que vous faites aussi? Quelle est votre contribution pour stopper cette violence?
Nous n'avons que comme arme la sensibilisation. Et c'est ce que nous faisons. Même à travers votre radio, nous faisons la même sensibilisation. Nous invitons tout le monde, et particulièrement les jeunes qui sont dans le territoire d'Ndjougou, à la paix, à la culture de la paix, d'éviter de se faire la justice. Quand il y a des problèmes, nous devons recourir à la justice. Et aussi à la justice, nous demandons d'être aussi juste.
Sur notre plan, on apprend qu'il y a des véhicules qui sont seulement bloqués du côté de Mag, des centaines de véhicules. Vous savez, la R27, c'est la voie qui alimente la ville de Bounia en nombreux produits, articles divers, en provenance de l'Est, du Kenya, de la Tanzanie, même de la Chine ou de Dubaï. C'est quoi la crainte justement avec Tessil? Choses évoluent parce que ça fait déjà depuis jusqu'à le week-end que le trafic est presque interrompu ou perturbé. Vous craignez quoi si les choses évoluent telles quelles?
Cela a comme conséquence d'abord sur les opérateurs économiques qui ont loué ces véhicules, parce que tous ces véhicules n'appartiennent pas aux Ituriens, sont des véhicules loués. Comme ils ne savent pas acheminer les marchandises dans les délais, ils seront taxés de pénalités. Cette pénalité, c'est nous, la population, qui allons payer, parce que le commerçant cherchera à récupérer son argent sur les marchandises qu'il va vendre. Et sur le marché déjà localement, nous n'aurons plus de produits de première nécessité parce que les stocks qu'il y a dans les entrepôts vont s'épuiser.
Nous disons merci.
C'est moi qui vous remercie.
Et c'est la fin de cette édition d'information mise en onde par Polydor Basunga. Pele Kipela Mondo l'a préparé et Patience Ngalula Mbombo vous l'a présenté. Merci de votre attention.